Alors mes réflexions rejoindront pas mal celles de Gilles ce matin. Aujourd'hui, nous voulons marquer la rentrée après la dispersion de l'été. Alors vous le savez, c'est une rentrée spéciale. Alors c'est vrai qu'au mois de juin, on aurait pu avoir de quoi être optimiste. Les quelques signaux étaient optimistes au mois de juin. Et on attendait de voir si l'épidémie allait régresser et si les mesures allaient nous permettre de revenir à une vie d'église sans trop de contraintes. Mais il semble que ça continue. Alors, même si c'est de manière moins intense, même si l'épidémie a l'air moins intense, en tout cas que pendant le confinement, nous devons poursuivre les cultes un peu avec, comme dans cette image, avec toutes les précautions nécessaires. Alors les médias nous en parlent tous les jours, de l'évolution de l'épidémie. Et dans ce climat qui reste incertain, comment rester calme? Comment ne pas s'inquiéter? Comment envisager la vie d'église avec sérénité? Alors même si on n'est pas forcément inquiet pour notre propre santé, on peut se questionner, et comme l'a dit Gilles, sur l'avenir des activités de l'église qui sont appelées à peut-être prendre une autre forme. Voilà, ça a été dit, les repas en commun ne sont plus possibles, des groupes de maison doivent trouver des lieux plus adaptés, les grands événements sont appelés à trouver un autre format. Mais dans la Bible, Dieu nous appelle toujours à la confiance en lui, et c'est ce que j'aimerais encore rappeler ce matin. Alors le texte que j'ai choisi pour la prédication aborde la question sous un angle plutôt matériel et personnel. Mais nous verrons qu'il y a bien un lien avec aussi la vie d'Église. Alors avant de lire ce texte dans l'Évangile selon Matthieu, j'aimerais vous parler de quelqu'un qui s'inquiète tout le temps. Alors c'est quelqu'un qui s'inquiète tout le temps. Il y a un livre qui est sorti à son sujet. Et j'espère que vous êtes bien concentrés, que votre esprit est bien éveillé, parce que c'est un livre de haut niveau que je vais maintenant vous lire intégralement. Ah oui, je prends ma télécommande. Vous avez bien encore une ou deux heures devant vous. Voilà, il s'agit du livre de Monsieur Inquiet. Voilà son comment ? Un prix concours. Je t'entends pas bien avec le masque. En tout cas, vous le savez certainement, son histoire fait partie de la série des Madame Monsieur, la collection des livres pour enfants, et son histoire a quelque chose à nous apprendre sur l'inquiétude. Alors voilà, je ne vais pas afficher la parole, ni les images. Si vous voulez regarder les images, vous pourrez vous montrer le livre à la fin du culte. Donc je vais vous lire le livre intégralement. Alors ne vous inquiétez pas, il n'est pas très très long. Et voilà, il y a pas mal de choses à nous apprendre, en tout cas des réflexions qui peuvent nous questionner. Monsieur Inquiet. Pauvre Monsieur Inquiet. Il était continuellement, perpétuellement inquiet. Quand il pleuvait, Monsieur Inquiet se demandait s'il n'y avait pas de fuite dans le toit de sa maison. Quand il ne pleuvait pas, Monsieur Inquiet se demandait si les fleurs n'allaient pas se faner. Quand il partait faire ses commissions, il se demandait si ce n'était pas l'heure de fermeture des magasins. Quand il trouvait les magasins ouverts, il se demandait s'il aurait assez d'argent pour payer ses achats. Quand il rentrait chez lui, il se demandait s'il n'avait pas oublié quelque chose, ou s'il n'avait pas perdu quelque chose en chemin. Quand il avait vérifié qu'il n'avait rien oublié et qu'il n'avait rien perdu, il se demandait s'il n'avait pas acheté trop de choses. Et puis, il se demandait où il allait ranger toutes ses provisions. Il n'en finissait pas de s'inquiéter. Pauvre monsieur inquiet. Un beau matin, il partit en promenade. Il était inquiet. S'il allait trop loin, il serait trop fatigué pour rentrer chez lui. Mais s'il n'allait pas assez loin, il n'aurait pas pris assez d'exercice. Et ça, c'est très mauvais pour la santé. Il s'inquiétait ainsi quand il rencontra Monsieur Malchance. « J'étais inquiet pour vous, » dit-il. « Et pourquoi donc ?» demanda Monsieur Malchance. « Je me demandais si vous n'alliez pas vous faire mal un de ces jours, » répondit-il. « Ne vous inquiétez pas pour ça, » dit Monsieur Malchance. Et il s'en alla en trébuchant à chaque pas. Monsieur Inquiet continua sa promenade. Il rencontra Monsieur Bruit. « J'étais inquiet pour vous, » dit-il. « Et pourquoi donc ?» demanda Monsieur Bruit. « Je me demandais si vous n'alliez pas devenir muet, » répondit Monsieur Inquiet. « Ne vous inquiétez pas pour ça, » dit Monsieur Bruit. Et il s'en alla en tapant des pieds. Poum, poum, poum. Monsieur Inquiet continua sa promenade. Il rencontra Monsieur Glouton. Alors Timaël aime bien Monsieur Glouton. « J'étais inquiet pour vous, » dit-il. « Et pourquoi donc ?» demanda Monsieur Glouton. « Je me demandais si vous ne mangez pas un peu trop. Vous pourriez vous rendre malade, » dit Monsieur Inquiet. « Moi, manger trop ?» répliqua Monsieur Glouton. « C'est impossible. » Et il s'en alla préparer son repas. Monsieur Inquiet continua sa promenade. Il rencontra un magicien. « Bonjour, » dit le magicien, « qui êtes-vous ? » « Je suis Monsieur Inquiet. »« Vous m'en avez tout l'air, » murmura le magicien. C'était un gentil magicien, toujours prêt à rendre service. « Écoutez, Monsieur Inquiet, » dit-il, « vous allez rentrer chez vous, prendre un papier et un crayon et faire la liste de toutes les choses qui vous inquiètent. Je vous promets que ces choses-là n'arriveront plus jamais. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter, ajouta le magicien. Monsieur Inquiet se mit à sourire. C'était la première fois qu'il souriait depuis longtemps, la première fois depuis des années. Il rentra chez lui en sautillant de joie. Monsieur Inquiet écrivit sur un papier toutes les choses qui l'inquiétaient, toutes, sans en oublier une. La liste était longue. Ce soir-là, Monsieur Inquiet s'endormit paisiblement. Il dormit profondément. C'était la première fois qu'il dormait aussi profondément depuis des années. Le lendemain matin, le magicien vint chercher la liste chez Monsieur Inquiet. « Bigre, quelle longue liste !» s'écria-t-il. « Donnez-la-moi. Je vous promets qu'aucune de ces choses n'arrivera plus jamais. » Et il s'en alla avec la liste. Monsieur Inquiet poussa un soupir de soulagement. Ce jour-là, pour la première fois de sa vie, Monsieur Inquiet n'eut aucune inquiétude. Ni le lendemain, ni le surlendemain, ni le lendemain du surlendemain. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Monsieur Inquiet n'eut absolument aucune inquiétude. Mais, lundi matin, il se réveilla fort inquiet. Aïe, aïe, aïe. Sais-tu pourquoi il s'inquiétait ? Tu ne devines pas ? Il alla voir le magicien. « Qu'est-ce qui vous arrive ? » demanda le magicien. « Je vais vous le dire, » répondit Monsieur Inquiet. « Je ne trouve plus aucune raison de m'inquiéter. » Et ça m'inquiète. Avez-vous tendance à être comme Monsieur Inquiet ? Peut-être à moindre échelle. Pour ma part, c'est surtout lorsque je suis fatigué. J'ai tendance à m'inquiéter pour toutes sortes de choses. Pour les membres de ma famille, pour les situations difficiles autour de moi, pour la fuite de liquide sous la voiture. La conclusion de ce livre est très intéressante. Nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Avant cela, je vous propose de lire maintenant le texte biblique qui parle lui aussi d'inquiétude. Et je vous propose de faire la lecture en plusieurs fois et de commenter le passage au fur et à mesure de la lecture. Matthieu 6, versets 19 à 34. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 34. Alors je commencerai par les versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où les mites et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs pour voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les biens matériels sont une source d'inquiétude. Lorsqu'une machine électroménagère tombe en panne, ou lorsque la voiture fait un bruit inhabituel, ça m'inquiète. Lorsque nous sortons de chez nous le matin, que faisons-nous ? Nous fermons nos portes à clé. Lorsque nous sortons à vélo, nous emportons aussi un cadenas. Pourquoi tous ces automatismes ? Parce que nous ne voulons pas risquer de nous faire enlever ce que nous possédons. Ces démarches sont légitimes, mais notre vie est-elle dirigée par ces inquiétudes, par nos biens matériels que nous pouvons perdre ? Jésus dit que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Nous consacrons notre temps, notre argent et notre énergie à ce qui nous tient à cœur. Et Jésus nous invite à réfléchir sur ce qui nous tient à cœur, ce qui motive notre existence. Misons-nous notre vie sur les choses terrestres, c'est-à-dire les choses éphémères, périssables ? La vie se résume-t-elle à ce qu'il y a sur terre ? C'est la première réflexion que ce texte nous pose. Continuons la lecture. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Lorsque Jésus dit que l'œil est la lampe qui éclaire notre corps, il me semble qu'il fait référence à l'œil comme organe du désir. On dit que c'est avec les yeux que l'on convoite. On regarde ce qui nous fait envie. Et ce qui nous fait envie motive nos faits et gestes, notre corps. Jésus ne dit rien de plus que précédemment. Notre corps est dirigé par nos aspirations. Nous travaillons et nous dépensons notre énergie pour nos objectifs. Mais quel est l'objectif de notre vie ? C'est à chacun de choisir. Jésus dit que l'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas dire à la fois mon travail ou ma carrière est prioritaire et en même temps, on ne peut pas dire ma famille est prioritaire. On ne peut pas dire mon cœur est attaché au bien que m'offre ce monde et en même temps, mon cœur est attaché à Dieu. Alors il y a beaucoup de belles choses dans ce monde. Mais lorsque je vois les famines, les guerres, les injustices, je me dis que ce n'est pas normal. Pourtant, le monde connaît les guerres et les injustices depuis plusieurs siècles, même des millénaires. Mais je persiste à me dire que ce n'est pas normal. Et ce sentiment m'amène à me dire que nous ne sommes pas faits pour ce monde. En tout cas, nous aspirons à un monde différent. Mais ce monde-là est-il celui où nous vivons actuellement ? Continuons la lecture. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus affirme que Dieu prend soin de ses enfants, et ses enfants sont ceux qui se reconnaissent comme tels. Vous avez certainement remarqué que j'ai souvent parlé de voiture dans mes exemples. Il y a 2 mois, j'ai acheté une voiture d'occasion à un particulier qui me semblait fiable et honnête. Mais plus je la roulais, plus certains détails me perturbaient. Un voyant de défaut moteur qui s'allume soudainement, la jauge d'essence qui baisse trop rapidement, du liquide qui fuit sous la voiture. Alors j'ai passé un bon moment à analyser la voiture sous les regards de mes enfants. J'avais une certaine inquiétude. En fait, j'avais peur de devoir dépenser une fortune chez le garagiste. Aujourd'hui, je sais qu'il n'y avait rien de grave, mais le mois dernier, en tout cas il y a 2 mois, j'étais inquiet, alors que mes enfants ne l'étaient pas du tout. Ils ne l'ont jamais été. Pour eux, papa allait faire ce qu'il faut pour que tout aille mieux. Alors non pas que je sache réparer les voitures, mais je sais l'amener chez le garagiste. Cette absence d'inquiétude, Dieu nous propose de la voir aussi, car notre Père céleste fera ce qu'il faut pour prendre soin de nous. Alors ces paroles sont faciles à dire pour nous, qui avons de quoi nous nourrir et nous vêtir, mais qu'en est-il des personnes qui vivent dans la précarité? Vous vous posez peut-être la question. Je ne suis pas du tout un spécialiste de ce sujet, mais j'ai eu l'occasion de côtoyer quelques personnes dans d'autres pays qui vivent au jour le jour, sans aucune assurance pour le lendemain. Et lorsque je parle avec de telles personnes qui ont la foi, je suis justement impressionné par leur foi. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ils ne sont pas déçus de Dieu. Au contraire, leur confiance en lui est encore plus concrète. Dieu ne nous invite pas à vivre comme si nous n'avions aucun besoin. Il ne dit pas que le vêtement ou la nourriture ne sont pas importants. Il ne nous demande pas de faire abstraction totalement de cette terre. Il nous invite à avoir un champ de vision plus large. Alors je m'explique. Quand on est jeune et qu'on a la vie devant soi, on ne pense pas forcément à l'avenir sur le long terme. On ne pense pas peut-être à la retraite. Mais il arrive un moment où l'on se pose des questions, on se projette et on prépare l'avenir. Dans notre société, nous voyons la retraite, en tout cas nous avons tendance à voir la retraite comme un moment de notre vie où nous pourrons enfin nous reposer et profiter de ce que nous aurons réussi à gagner dans la vie. Une maison, un jardin, une famille, des petits-enfants, un revenu régulier, en un mot, la retraite. Mais Dieu, lui, nous invite à investir, non pas seulement pour la retraite, mais surtout pour l'éternité. Ce n'est pas un investissement financier, en tout cas pas seulement, mais cela demande de mettre les biens matériels et toute autre chose en second plan. On ne peut pas servir 2 maîtres. Notre vie ne peut pas poursuivre 2 objectifs différents, mais un seul. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en visant l'éternité, en faisant confiance en Dieu,
il gérera pour nous tout le reste, tout ce qui concerne la vie terrestre. C'est sa promesse, elle est peut-être difficile à concevoir, et c'est pour ça que c'est une promesse qui se saisit par la foi. Dans le livre de Monsieur Inquiet, vous vous souvenez, le magicien a réussi à enlever toutes les inquiétudes de Monsieur Inquiet. En tout cas, pour un certain temps. De même, dans notre société, des tas de méthodes, par exemple des méthodes de développement personnel, en tout cas des tas de recettes magiques, peuvent nous aider à moins nous inquiéter, à nous sentir mieux. Cependant, nous aurons beau utiliser toutes les méthodes humaines pour avancer dans la vie, certaines seront efficaces, d'autres moins, mais au fond de nous, il restera toujours une part de notre nature humaine qui peut reprendre le dessus à tout moment. Comme pour Monsieur Inquiet, qui recommence à s'inquiéter au bout d'un moment. Jésus ne propose pas une méthode magique. Il ne propose pas une méthode humaine, mais divine. En fait, ce n'est pas une méthode, c'est une manière de vivre, une direction pour notre vie. Ne vous inquiétez pas, dit-il. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en plus. Maintenant, quel rapport avec la vie d'Église ? Je conclus avec quelques réflexions à ce sujet. Il me semble que le verset clé est le verset 33 que je viens de rappeler. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Jésus parle de ce que nous sommes appelés à chercher personnellement, mais cet objectif est d'autant plus valable pour l'Église, le rassemblement de ses enfants. Ensemble, cherchons d'abord le royaume de Dieu. Cherchons d'abord à vivre et à annoncer le royaume de Dieu. Et ça, le coronavirus ne nous en empêche pas. En général, lorsque nous invitons des personnes à nos rencontres, nous aimons les recevoir avec une boisson, une collation, un repas, une activité festive ou socio-culturelle. Ce sont des démarches qui permettent de créer des liens plus facilement et de la convivialité. Mais ce temps de coronavirus et les paroles de Jésus nous rappellent que le plus important, c'est le royaume de Dieu, c'est l'Évangile. L'épidémie nous force à dépouiller nos rencontres de certains éléments, comme les collations. Mais ce n'est pas grave, car le principal n'est pas menacé par des mesures sanitaires. La parole de Dieu que nous continuons d'annoncer reste au centre de toutes nos rencontres, et c'est elle qui agit. Et même lorsque les distances limitent le nombre de places, nous ne sommes pas limités en nombre de rencontres. Alors je reconnais que la convivialité autour d'une table est importante, et je vous avoue que ça me manque. Dans la Bible, on m'a fait remarquer qu'on mentionne plus de repas que de prières, mais c'est le Saint-Esprit qui agit lorsque nous organisons des rencontres centrées sur l'Évangile. Notre manière de recevoir et d'accueillir au nom du Christ est aussi un témoignage important. Actuellement, l'Église est face à une épreuve particulière, avec des restrictions, des empêchements, mais nous ne sommes pas empêchés de chercher toujours plus le royaume de Dieu et d'annoncer sa parole. C'est une bonne nouvelle, car si c'est bien notre démarche, Dieu nous promet qu'il s'occupe de tout le reste. Que cette rentrée soit une occasion de mettre notre confiance en Dieu pour le reste de l'année. Nous sommes pleins d'incertitudes, mais peu importe, ce qui nous est demandé, c'est de chercher et témoigner du royaume de Dieu. Tout le reste est entre les mains de Dieu. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci parce que tu nous invites à ne pas nous inquiéter. Tu nous invites à avoir pour seul objectif dans notre vie de chercher ton royaume, ta justice, de vivre ton royaume dans l'Église dès aujourd'hui. Et tu nous promets que tout le reste nous sera donné, que tu prends soin de nous pour le reste. C'est un enseignement qui est parfois difficile à mettre en pratique parce que notre nature humaine reprend parfois le dessus. Mais ton esprit est là pour nous remplir, pour que ce soit les désirs de ton esprit qui nous dirigent et non pas les désirs de notre nature. Nous te demandons de conduire notre vie, conduire notre Église dans cette marche paisible et non pas dans une marche inquiète. Nous te prions pour la journée, pour nos réflexions, pour tout le reste de l'année, pour notre vie personnelle, que ce soit cette parole, chercher d'abord le royaume de Dieu, qui soit au centre de notre préoccupation. Merci pour ta parole qui nous rassure, qui nous fait part de tes promesses, fait que nous puissions saisir ces promesses chaque jour par la foi, marcher quotidiennement auprès de toi et nous ouvrir à ta parole, à ta révélation, à ce que tu souhaites nous apprendre les uns à travers les autres. Au nom de Jésus, Amen.